Radio Sainte-Baume, 88.9.
Grand merci à vous tous, ma chère Laurence. Et bien oui, à l'antenne, Jean-Marc Gravela pour De vous à moi, Madame le maire, avec l'édition 2016-2017, car il faut le rappeler, bien sûr, nous suivons le rythme scolaire. Et pour suivre ce rythme scolaire, nous avons bien sûr un coach important, très connu dans la région, c'est Monsieur Olivier Barrault, qui est adjoint donc à la mairie, qui s'occupe de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté. Vous voyez, par trois, cet homme tient donc bien la jeunesse. Et je vous en remercie, Monsieur Barrault. Il est merci. Accompagné, bien sûr, par son staff, avec son agent de communication, Monsieur Gérard David, et son photographe, le docteur Pascal, le roi du Zoom. Pour l'heure, eh bien, j'aurai le plaisir de recevoir au téléphone Maurice Lequen, qui est le directeur donc, du conservatoire, Dame Anne-Marie Lamia, adjointe à l'événement, bilan touristique, et Mireille Boeuf, très connue, bien sûr, pour sa culture, ce patrimoine et sa rencontre avec des arts contemporains. Mais pour l'heure, bien sûr, un premier magistrat, ça se salue. Et Madame le maire, bonjour. Madame Christine Lavranchi-Dorgal, comment s'est passé un petit peu ces vacances et cette rentrée est-elle toujours suivant votre attente?
Bonjour Jean-Marc, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume. Merci de m'accueillir pour cette rentrée tout court et rentrée scolaire, puisque ça va être le thème aujourd'hui. La rentrée, comment elle s'est passée? Bien, d'abord, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont, comme ça se fait chaque année, pour que nos chers enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. Mais cette année, il y avait une tonalité particulière, puisque la posture Vigipirate a été largement renforcée suite aux événements dramatiques de l'été. Et nous avons reçu un tas de circulaires qu'il a fallu mettre en application. Donc nous étions sur le pont avec Monsieur Barrault dès fin août pour faire les réunions de sécurité ad hoc, en compagnie des forces de la gendarmerie, des forces de la police municipale, des enseignants. Tout ça a été bien préparé. Et le 1er septembre est arrivé. À 8h du matin, nous étions sur le pont, mon adjoint et moi-même, et nous avons commencé notre tournée. Alors, ça a été la visite de toutes les écoles, bien entendu. Nous avons commencé par les écoles laïques et ensuite nous avons terminé notre journée par l'école Sainte-Marie-Madeleine. Et entre-temps, nous avons pris un déjeuner délicieux à la cantine Jean Moulin. En compagnie des enfants, c'était très agréable. En ce qui concerne les locaux, tout s'est passé idéalement. Je dois dire que les classes étaient extrêmement propres et les abords très nettoyés. Les équipes municipales ont fait vraiment un bon travail de préparation de cette rentrée. Je les en félicite. En ce qui concerne les travaux qui avaient été faits dans les écoles, Olivier en parlera tout à l'heure, on a eu juste un petit souci parce que au mois d'août, toutes les entreprises sont fermées. Ensuite, au mois de juillet, on a eu des problèmes de réception de pièces détachées. Donc ça, c'est comme quand on fait des travaux à la maison. On établit un planning et malheureusement, après, on est soumis aux contraintes diverses et variées.
Et ça a coûté un peu d'argent, cette sécurisation, parce que...
Alors, oui, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que nous recevons des circulaires des services de l'État, mais c'est à la collectivité de prendre en charge la sécurité dans ces établissements. Et sachant que les établissements scolaires, jusqu'au niveau élémentaire, appartiennent à la commune. Donc on a travaillé conjointement avec l'éducation nationale qui avait ses propres circulaires, mais nous, il a fallu qu'on mette en place des services de police municipale beaucoup plus renforcés, même si on ne le voit pas... Si ce n'est pas visuel, sachez que les policiers municipaux tournent. On a beaucoup d'informations qui remontent s'il y a un souci. Ensuite, on a mis en place des consignes de sécurité très importantes au niveau du barriérage. Hein. Donc, pas de possibilité de se garer, pas de possibilité de rester devant les écoles un temps infini. Et puis, beaucoup de communication avec les parents. Mais je ne vais pas dévoiler tout ça, puisque Olivier le fera au cours de l'émission. Alors, d'accord. Oui, la rentrée s'est bien passée avec les ajustements que nous allons faire tout au cours de l'année, bien entendu.
Très bien. Bien, en attendant, on va quand même parler, on va continuer, bien sûr, sur ces chères têtes blondes, et on va vous parler un petit peu des cantines scolaires, des effectifs. Est-ce qu'il y a eu des changements apportés? Car, bien sûr, sur le plan national, on en parle de temps en temps, de ce sujet des cantines scolaires. Est-ce que vous avez pu, donc, vous, avoir aucun souci ou quelques soucis?
Alors, les effectifs, bien entendu, sont appelés à bouger, hein, comme dans toutes les écoles de France, hein, entre les radiations et les inscriptions. Je pense qu'Olivier va nous faire un petit topo de tout ça, et je lui cède la parole bien volontiers.
Oui, donc cette année, nous avons eu 30 enfants de plus que l'année dernière. Donc nous sommes sur nos écoles à 1692, sans compter Marie-Madeleine, puisque Marie-Madeleine est à part. Derrière, donc, c'est un effectif qui bouge continuellement dans l'année, puisqu'il faut savoir que l'année dernière, on a eu à peu près une centaine de radiations pour à peu près une centaine d'arrivées. Donc ça s'équilibre bien au niveau de la rentrée. Cette année, bon, il y avait la particularité que l'éducation nationale a fermé une classe donc, au niveau de l'école Paul Bar maternelle. Par rapport à la baisse d'effectifs, puisque en fait, on a eu une baisse d'effectifs sur l'école maternelle au niveau de moyenne et petite section. Voilà. Sur les cantines, ben, nous avons deux prestataires. Nous avons Provence Plat et Sodexo, qui sont arrivés donc, sur la cantine Jean Jaurès. Et par contre, donc, pour les parents et pour la bonne on va dire, continuité des choses, nos prix sont restés inchangés depuis 3 ans.
Ah, donc, c'est
depuis
bien,
que voilà, nous sommes élus, nous n'avons plus bougé les prix.
À combien à peu près le repas ?
Alors le repas est à 2,95 €, la périscolaire est à 1,50 € et les nappes sont à 3 €.
Très bien, donc vraiment c'est très abordable. Et en même temps, dans ces menus, est-ce que vous avez solutionné ces problèmes de menus, entre parenthèses ?
Alors les menus, donc on a deux prestataires qui sont faits avec des nutritionnistes donc, qui nous sont proposés tous les débuts de mois, où sont affichés et où il y a vraiment des aliments variés et un équilibre, et avec des menus bio, puisque nous avons quand même des menus bio aussi au niveau de notre quartier. Non, c'est au niveau de la cantine. Alors après, les deux prestataires doivent se rapprocher du lycée pour justement avoir des produits bio, puisqu'on leur demande aussi de se rapprocher des produits locaux, puisque ça, c'est important. Et je laisse la parole à ma mère qui va aller jusqu'au bout.
On va essayer de privilégier les circuits courts. C'est une demande qu'on a faite dans le cahier des charges du marché public. Hein. Privilégier absolument les circuits courts, les produits frais, et puis aussi des menus très, très variés pour que nos enfants apprennent à goûter d'abord tous les aliments et à se forger un goût et un palais.
Et alors, un petit souci quand même de famille, les transports scolaires, ça marche, ça roule, il y a quelques problèmes.
Alors, donc, les transports scolaires sont organisés par le conseil départemental. Donc, nous avons des transports pour toutes les écoles, pour les enfants donc, de maternelle deuxième année, puisque les premières années n'ont pas le droit de prendre le car. Donc on a à partir de la deuxième année jusqu'au CM2 où on passe dans tous les quartiers en sachant que les maternelles sont accompagnées par une personne de la mairie puisqu'ils ne sont pas seuls au niveau du cas. Voilà. Après dans les collèges et dans les lycées ça fonctionne mais c'est plus le conseil départemental et le conseil régional qui gère cette partie-là.
D'accord, mais je sais quand même que vous couvrez, que vous chapeautez comme on dit si bien tout ceci. Alors bien sûr on revient sur ce que nous avions fait la saison dernière, les activités périscolaires, il y a eu des soucis pour implanter, pour organiser, pour mettre tout en place et grâce bien sûr au dynamisme de la mairie et des services, ça s'est passé. Et cette année, est-ce que ça va continuer ces activités périscolaires ?
Alors avant de passer aux activités périscolaires qui bien entendu vont continuer, je veux juste dire que tous les menus sont disponibles sur le site de la ville. Hein. On a fait une petite refonte de ce site qui est beaucoup plus accessible et il se trouve dans l'onglet tout âge. Donc là, tous les parents peuvent prendre connaissance des menus qu'il y aura pour la semaine pour leur enfant.
Donc aucune surprise. Ouais. Et bien sûr, l'information passe aussi bien donc par le net que...
Alors oui, alors j'engage tous les parents à se rendre souvent sur le site de la ville, hein, qu'ils aillent surfer sur tous les onglets parce qu'ils auront beaucoup d'informations qui peuvent les intéresser pour leurs enfants, pour le monde associatif, mais aussi pour la vie communale. Et puis aujourd'hui, nous avons aussi mis en place le paiement en ligne. Voilà, on essaie d'avoir une e-mairie
dynamique. Et voilà. Du troisième millénaire. Voilà.
Et du troisième millénaire.
Merci, Madame la maire.
Et en ce qui concerne les activités périscolaires,
oui.
Donc, quand la législation a obligé les communes à prendre en compte cette nouvelle action, nous, on a joué le jeu complètement. Et chaque année, on enrichit nos activités périscolaires de différents ateliers et qui ont quand même pas mal de succès.
Et vous trouvez du personnel pour faire cela, des animateurs, des bénévoles,
Non, on ne le trouvait pas aussi facilement, mais on l'a formé. Donc on avait préparé cette réforme bien en amont et Olivier s'était chargé de proposer des formations à tous les agents des agents des écoles pour qu'ils puissent s'investir encore plus et professionnaliser complètement leur action.
Moyenne d'âge de ces animateurs, qu'ils soient bénévoles ou... Parce qu'au fond, c'est une question un peu sournoise, bien sûr. On peut toujours aussi retrouver chez les retraités de jeunes animateurs.
Il y a tous les âges, Olivier.
Oui, donc voilà, il y a tous les âges. Donc nous avons, par rapport aux maternelles, donc les nappes sont faites par les ATSEM, donc notre personnel qui s'occupe d'eux toute la semaine, qui connaissent bien, donc les enfants sont en sécurité, ils savent à qui ils s'adressent, donc pour les petits c'est très important. Il y a des intervenants extérieurs qui viennent, donc aussi ils sont formés, hein, c'est-à-dire qu'ils ont au minimum un BAFA. Des intervenants qui viennent surtout au niveau donc, des primaires, où nous avons nos animateurs. Donc là, la moyenne d'âge est quand même un peu plus jeune que sur les intervenants, parce que bon, c'est les NAPS, c'est plus du personnel qui était là en place. C'est vrai que là, on a été obligé d'étoffer notre équipe d'animation, et dans l'animation, il y a un peu plus de jeunes, en sachant que nous avons nos animateurs aussi depuis longtemps, qui ont vieilli avec la mairie aussi en même temps, et qui connaissent parfaitement tous les enfants de Saint-Maximin. Donc nous avons plein d'associations qui participent avec nous, des bénévoles comme vous le disiez avec Lire et Faire Lire, où là c'est plus des mamies et des papis qui viennent. Alors il ne faut pas le regarder dans le côté pédagogique, mais en fait c'est ceux qui ont le plus de temps. Donc c'est vrai qu'ils donnent un peu de temps à la mairie et aux enfants.
Et ça, un peu d'amour aussi.
Et beaucoup d'amour. Voilà. Et il faut les remercier parce que ces gens-là, ben, c'est important aussi. Ils sont là entre midi et deux, ils sont là pendant les nappes. Et c'est vrai que c'est très important qu'ils soient là et qu'il y ait en fait ben, un peu l'intergénérationnel.
Voilà, on essaie de privilégier l'intergénérationnel parce que c'est important, notamment aussi au niveau des équipes municipales, mais aussi par rapport aux intervenants. Tout le monde a sa place aujourd'hui dans notre société. Tout le monde apporte sa richesse personnelle.
Alors, question du mercredi, ça se passe bien, il n'y a plus de soucis non plus parce que...
Alors le mercredi, c'est la mairie donc, qui a pris, on va dire, les Dragonnets, puisque les Dragonnets, c'est le centre de loisirs qui est fait le mercredi, où nous avons mis en place un car pour aller récupérer les enfants dans les écoles de Saint-Maximin et les remonter au niveau de Paul Barle. Il faut savoir que ben, ça prend de plus en plus d'ampleur, puisque à l'heure d'aujourd'hui, les dernières inscriptions, on est à 170 enfants par mercredi après-midi. Ce qui correspond à une augmentation, parce qu'au début, quand on a lancé, on était aux alentours des 100 enfants. En 3 ans, on est sur du 170 enfants. Donc, ça prend bien sa place et les parents nous font confiance. Et c'est vrai que, en fait, comme les animateurs sont dans les écoles, sont là pendant l'été, ils les connaissent et nous laissent plus facilement les enfants le mercredi aussi.
Mais là, tout ceci, ça touche un petit peu le budget parce qu'on me dit toujours que les familles doivent participer à hauteur de quelques euros. Et certaines familles, donc, s'ils ne peuvent pas le faire, qu'est-ce qui se passe alors ?
Donc là, on demande... très peu d'argent au niveau des familles. Bon, après, nous sommes aidés aussi par la CAF par rapport donc, au ce périscolaire de mercredi. Et après, les familles qui ne peuvent pas, on a mis en place un service avec Madame Martido qui est au niveau donc, de l'EJC, si vous en avez besoin, et qui là permet de monter des dossiers pour aider les familles en difficulté pour retrouver des financements pour payer donc, ces activités.
D'accord, M. Barreau. Alors, on va vite résumer. Activités périscolaires et les NAPS, toujours, retour vers la mairie, retour avec les services de M. Barreau, il faut quand même le rappeler. Ça vous permettra de demander, mesdames et messieurs, s'il y a des problèmes d'éducation, de jeunesse et de citoyenneté, pas de problème, M. Barreau est à votre écoute. Alors, on ne va pas clôturer, mais comme vous avez parlé de citoyenneté, comment se joue votre activité sur la citoyenneté? On a vu l'éducation, on a vu donc comment on peut occuper les enfants. Et sur la citoyenneté, est-ce que c'est Madame le maire ou c'est Monsieur Barraud qui va nous répondre?
Je vais juste introduire la volonté qui a été la nôtre quand on a créé ce service, puisqu'on l'a créé quand on est arrivé en 2014. Affaires scolaires, c'était désolidariser complètement le monde de la jeunesse, de l'enfant qui commence dès sa sortie de crèche, dès qu'il arrive et qu'il est accueilli en école, et jusqu'à ses 18 ans. Donc on a formé un vrai service, un vrai paquet de jeunesse dans lequel nous avons voulu mettre des thèmes forts, l'éducation certes, la jeunesse effectivement c'était le thème, mais surtout la citoyenneté, et ce sont des mots qui sont directement corrélés, des actions qui sont directement corrélées. Alors chaque fois que il y a un enfant qui a sa maxima, il est suivi dans ce service de toute sa scolarité jusqu'au collège, et il est identifié, et ses besoins et les besoins familiaux sont recentrés, et au travers d'actions que nous avons développées au fur et à mesure des années, nous pouvons travailler sur ces trois thèmes, surtout sur ces deux thèmes, l'éducation et la citoyenneté. Si Olivier veut rajouter...
Avant que vous rajoutiez, je vais quand même vous demander, je reviens sur le côté pédagogique de citoyenneté. Est-ce qu'on apprend à ces jeunes donc comment est organisé un État, comment est organisé un département, comment est organisée une mairie? Est-ce que... Et oui, mais c'est cela qu'il faut quand même que ces jeunes sachent où ils sont, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous leur apprenez la Marseillaise? Qu'est-ce que vous faites?
D'abord, nous leur apprenons le respect, ce qui est très important, le respect, la tolérance et l'envie de le souhait et l'implication à travailler, à vivre avec les autres. Cela, on le fait au travers de chantiers jeunes, hein, puisqu'on on a des équipes, on permet à des jeunes de repeindre, par exemple, les écoles de notre ville. Ils ont un tuteur et pendant cette semaine ou ces 15 jours de travaux manuels, ils créent vraiment une synergie et ils apprennent à travailler ensemble.
À partir de quel âge ils peuvent participer? Ces
alors là, c'est peut-être Olivier qui va répondre.
Alors, c'est à partir de 14 ans. Et donc, ils peuvent, ça se passe l'été où ils viennent pendant 15 jours.
Voilà, ils s'inscrivent.
Après, ils s'inscrivent et après, ils ont droit à une semaine de vacances. Donc,
ça, c'est très important. Ça,
voilà, et ça permet de se retrouver, de faire des activités ensemble et de vivre ensemble. Voilà, le mot, c'est de vivre ensemble et que tout le monde puisse vivre ensemble, ce qui est important.
Et puis ils ont une première vision de la vie professionnelle et de ses contraintes aussi, hein, de ses droits et devoirs. Et puis il y a d'autres actions qui sont menées au travers du sport, de la culture, parce que ça aussi ce sont des moteurs pour apprendre le respect, hein, et la vie en société.
Alors on va résumer, madame, mademoiselle, monsieur, père de famille, mère de famille, même si madame vous êtes peut-être un petit peu esselée, vous restez seule avec vos enfants, si vous voulez donc mieux... Donc forger la carrière et le futur et l'avenir de votre enfant, n'oubliez pas de passer par la mairie, il y a des services et je vous rappelle que ce sont les services de monsieur Olivier Barraud, éducation, jeunesse et citoyenneté, il y a moult solutions pour que le garçon ou la fille soit donc bien bordé, comme on dit, pour se préparer à une belle vie en direct à partir de notre belle ville de Saint-Maximin. On va passer maintenant à la sécurité dans les établissements. Je ne vais pas rappeler, bien sûr, que s'il y a des règlements d'argent à faire pour les moult petits euros, vous pouvez le faire en ligne grâce à la carte bleue, tout ça. Tout ceci est expliqué par les services de M. Barraud. La sécurité dans les établissements scolaires, on voit que certaines télévisions en font leur chou gras, mais vous, je sais que vous avez donc mis en place beaucoup de choses. C'est à madame...
Je vais introduire et puis oui. Après Olivier apportera quelques éclaircissements si besoin. Pour la sécurité, comme je l'ai dit, nous avons été abreuvés de circulaires du préfet. Exactement. Pour que les établissements publics assurent la rentrée et puis la vie
la alors, vie est-ce que c'est notes de la préfecture, c'est d'après vous pour dégager la préfecture de ses responsabilités, pour les renvoyer à la mairie ou vice-versa, ou pour vous aider? Parce que je crois que vous en avez reçu beaucoup là, de notes.
On en recevait une par semaine. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire c'est pour dégager qui que ce soit, mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans une configuration qu'on ne connaît pas, parce que la France n'a pas connu de guerre depuis 39-45. Donc, on ne connaît pas la violence. Le terrorisme, c'est une autre façon de faire la guerre beaucoup plus lâche, mais aujourd'hui, sur le territoire, c'est présent, c'est très prégnant. Donc, on est obligé de se remobiliser, et je crois que personne ne sait véritablement comment faire, comment apporter une réponse cette violence, à ce terrorisme. Donc chacun essaie par tous les moyens de sécuriser au mieux l'espace public, mais ça reste très compliqué parce que la sécurité des biens et des personnes, c'est une compétence d'État. Voilà. Et pas d'une collectivité locale. Mais je crois que dans des circonstances exceptionnelles, il faut avoir une attitude exceptionnelle aussi. Donc les collectivités, effectivement, sont soumises aussi à cette prise en compte, cette prise de conscience du danger qui peut exister sur le territoire.
Est-ce que vous avez mis en place aussi des systèmes un petit peu, comme on dit, SMS et tout, pour donc gérer les crises? Est-ce que vous avez pris des activités concernant la sensibilisation pour expliquer le geste qui sauve, etc. Est-ce que ça a été prévu, c'est prévu ou c'est à prévoir?
Alors, il y a deux acteurs qui interviennent au niveau de la sécurité, puisque là, on va parler uniquement des scolaires. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a ses propres directives au niveau de ses enseignants et de ses chefs d'établissement. Et nous avons nos propres directives aussi qui émanent de notre ministère. Donc, il faut absolument phaser toutes ces directives pour que ça ait, qu'il y ait le plus de souplesse possible et le moins de contraintes et que ce ne soit pas anxiogène, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi la terrible issue de toutes ces mesures, c'est que ça crée de l'anxiété au niveau des parents, ça crée de l'anxiété au niveau des élus, des usagers, on ne sait pas trop comment s'y retrouver. Donc on a, nous, mis en place une communication importante en faveur des parents, hein, par l'envoi de mails chaque fois que nous faisons une action. Ensuite, à l'intérieur de la collectivité, nous faisons des réunions régulières avec l'Éducation nationale, les forces de la gendarmerie, comme je l'ai dit, et la collectivité, mais ça ne se voit pas, mais cela, c'est pour gérer au quotidien la sécurité sur le territoire. Mais en même temps, il y a aussi un travail qui est fait par les renseignements territoriaux, hein, donc ils sont partout, et qui, pour détecter les phénomènes de radicalisation, il y a beaucoup d'outils, de leviers qui sont activés en même temps, qui ne se voient pas peut-être, comme certainement quelquefois des actions du PSIG qui étaient là pour la rentrée, les agents du PSIG étaient là pour la rentrée, on ne les a pas vus parce qu'ils étaient en planque. Et cette sécurité particulière, on ne la voit pas, mais elle est là, elle est présente sur
alors
le territoire.
Alors ça revient tout ceci toujours avec M. Barrault, c'est toujours sous sa compétence?
Alors là, c'est la compétence de l'équipe. Enfin, les pouvoirs de police, c'est des pouvoirs qui sont délégués au maire directement, hein. Mais avec M. Barrault, nous travaillons bien entendu la main dans la main avec tous les élus qui sont concernés, toute l'aide possible. Nous travaillons la main dans la main avec les forces de gendarmerie. Donc là, oui, c'est un travail commun et on a besoin de se mettre en commun parce que c'est un sujet très délicat et très difficile à aborder.
Bien, nous n'allons pas aborder ce côté radicalisation, etc. Tout ceci donc fera partie peut-être d'une autre émission. Mais pour l'heure, maintenant, Saint-Maximin, donc 17, 18 ou 19 000 habitants, là quand même, on grossit. Ça grossit, comme ils ont fait là.
Alors, le recensement officiel, c'est à peu près 16 000 habitants, sachant que des recensements sont faits régulièrement, mais que pour avoir les chiffres officiels, c'est-à-dire les chiffres INSEE et de notre ministère, il faut attendre glissement.
D'accord.
Et qui, en fait, augmenterait nos recettes, donc l'État n'est pas pressé de nous dire combien on est d'habitants,
Saint-Maximin. Voilà, je voulais un petit peu vous toucher.
Donc, en fait, le chiffre officiel, c'est 16 000
voilà.
Aujourd'hui.
Mais par contre, pendant la zone touristique, vous avez presque arrivé à 20 000, 25 000 quand même. Là, vous avez grossi quand même. Hein,
oui,
ça,
on a
ça
eu,
s'est bien passé.
On a eu énormément de monde. Anne-Marie va le rappeler, mais on a eu énormément de monde.
Alors,
cet été.
Pourquoi je pars sur un chiffre et vous allez me dire, oui, il est vrai, Jean-Marc. Non.
Bon,
est-ce que, bien sûr, les nouvelles technologies aident aussi à bien gérer une mairie?
Ah mais nous, on est vraiment orienté dans la mairie. Il a été fait un très gros travail par le service communication déjà pour améliorer notre réseau. Puis en plus, pour améliorer aussi la communication avec l'usager, parce que ça reste au cœur de notre envie municipale, de toute l'équipe. Donc ils ont fait une refonte complète de notre site. Et aujourd'hui, on peut, sans se déplacer, avoir par exemple des pièces d'état civil, prendre des rendez-vous et ensuite... payer en ligne, avoir toutes les informations que nous voulons sur la collectivité, télécharger toutes les éditions que le service communication fait, c'est-à-dire que ce soit le guide des associations, le guide de la rentrée scolaire, justement le guide de la rentrée scolaire est téléchargeable sur le site, mais il est distribué. Vous avez toutes les informations utiles.
Combien ça vous a coûté tout cela, madame le maire?
Alors, on a un service communication, donc ils ont coûté ce qui nous coûte habituellement, mais sinon, ça a fait quand même, pour recâbler la mairie, pour qu'on puisse avoir une mairie correcte, ça nous a coûté à peu près 70 000 euros. Plus toutes les actions que nous allons faire au fur et à mesure de l'année.
Oui, mais c'est important de dire que, voilà, pour une mairie, on parle toujours du Var avec le littoral, mais il faut quand même le rappeler, on a quand même beaucoup de chance d'avoir aussi autant d'un outil aussi bien performant, car je crois quand même aussi vous avez pris de très bonnes sociétés et de très bons informaticiens. Par contre, dans les maternelles...
Qu'il y a la possibilité aussi aujourd'hui sur le site pour tout usager de communiquer avec la mairie et de signaler un problème éventuel ou une question ou sa question, cette personne est géolocalisable, ensuite sa question est traitée vers les services concernés, donc il faut utiliser l'informatique, c'est beaucoup plus rapide et puis il y a une trace aussi, hein, donc la transparence, la traçabilité et aussi comme ça le citoyen se sent au cœur de sa cité.
D'accord, alors vous me parlez bien sûr d'internet et cet outil magnifique. Donc, bien sûr, les écoles doivent être sensibilisées, doivent avoir aussi, mon cher Olivier, vous me permettez de me rappeler, monsieur Olivier Barraud, donc la possibilité d'instruire aussi les enfants à cette technologie nouvelle.
Tout à fait. Donc là, cette année, on a décidé, avec donc madame le maire et l'équipe, de doter toute classe de maternelle d'une tablette numérique. Donc il y aura une tablette par classe de maternelle. Et on a décidé aussi par école, puisque bon, il y a quand même un gros coût, puisqu'il faut savoir que les tablettes et plus nous avons mis des tableaux interactifs, c'est-à-dire nous avons choisi de mettre un tableau en fait interactif par école, donc aussi au niveau du primaire, ce qui permettra à l'enseignant de pouvoir travailler avec l'informatique pendant son temps de classe. Donc tout ça pour un coût quand même de 16 000 euros. Et nous allons faire ça au fur et à mesure, c'est-à-dire que chaque année, nous allons investir pour que nos classes soient au top de l'informatique d'ici les années à venir, puisque bon, on va le faire au fur et à mesure.
Bien sûr. Alors, vous parlez, et là, madame le maire, donc, nous a parlé de placer, bien sûr, l'information par Internet, mais des fois dans ce qu'on appelle les seniors, il y a beaucoup de seniors qui ne savent pas trop manier. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à faire des écoles, des ateliers d'informatique pour les seniors? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, tout compte fait, moi je reste avec le thème, moi j'envoie par la poste et puis...
Oui, donc bon, ce qu'on fait nous au niveau donc des affaires scolaires, c'est que les gens qui ont des soucis, on va dire, avec l'informatique viennent nous rencontrer. Vous avez le personnel donc au niveau des affaires scolaires qui sont là pour les aider à mettre en place donc tous les besoins qu'ils ont informatiques au niveau des affaires, au niveau du paiement, etc. Et il y a des associations qui donnent des cours d'informatique aussi sur Saint-Maximin pour aider les gens qui ont des problèmes et des petits problèmes informatiques.
Eh bien, alors on va faire aussi tout à l'heure, peut-être on va écouter une petite plage musicale ou alors nous allons nous retrouver aussi avec un phénomène. Oui, ne vous en faites pas, il y a folie dans le studio parce qu'on vient de découvrir, on a M. Pascal qui est en train de courir avec son iPhone pour trouver des Pokémon. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des Pokémon dans notre studio. Alors, il y a Altorial, il y a Victorial, il y a Igorial. Il y a plein de Pokémon. Alors, attention, auditrices, auditeurs, vous ne rentrez pas comme ça dans nos studios. Du reste, on a déjà trois personnes qui sont en train de taper à la porte en bas du studio. Alors, l'information et la folie Pokémon, donc, qui envahit l'espace public, l'éducation nationale, madame le maire, est-ce que vous avez quelques idées là-dessus?
Sur le jeu Pokémon Go?
Oui.
Ah, mais si j'avais le temps, j'y jouerais, mais là, ce ne sera pas pour moi. Mais bon, je ne pensais pas que RSB était une arène pour Pokémon Go. Bon, ben, c'est parfait, hein, on le saura. Donc, si Pascal veut jouer au Pokémon, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est l'heure de la pause musicale?
Bien, et en attendant, avant de la pause musicale, est-ce que vous avez pris un arrêté sur ces Pokémon? Parce que vous me voyez arriver avec mes petits camarades dans la mairie. Bonjour, il paraît qu'il y a un peu... Non, il n'y a pas d'arrêté.
Non, je n'ai pris aucun arrêté, non.
C'est la liberté.
Oui, bien sûr.
La liberté. Hein. Et bien sûr, nous allons maintenant, mon cher Gérard David, envoyer la musique, vous qui êtes un aficionado de la croisée des arts et de ses nombreux artistes. Laurence, si vous avez quelques mots à nous dire,
Ça serait bien qu'on fasse la pause musicale.
D'accord.
Bah, s'il s'agit de pause musicale, moi je suis ravie, puisque, est-il besoin de le dire, nous parlons toujours de notre conservatoire régional là, à la croisée des arts. Et nous sommes chaque fois heureux de passer et que vous nous permettiez de passer des morceaux de leurs jeunes étudiants. Alors le premier morceau, ce sera Buggy de Randy Beck et il sera interprété par la fanfare du conservatoire. C'est un ensemble d'élèves qui est encadré par le professeur Hugo Sogia, trombone et tuba, et Dimitri Alexaline pour la trompette, Corinne Bernard, flûte traversière, et Natacha Baggio pour la clarinette. J'ai tout dit.
On écoute tout de suite.